Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La conspiration.
Welcome, bienvenue, hoş geldiniz, merhaba, etc., etc. Bienvenue à la conspiration des planches malgré ce temps de merde. Mercredi 19h, 19h30 ou en rediffusion le jeudi dès 13h30. On espère apporter un peu de soleil ou peut-être
des pistes pour se mettre au sec, peut-être.
Au théâtre, semaine critique de des planches, hein, de ce qui se passe à Bruxelles, dans la conspiration des planches, l'équipe Nicolas à la technique et à la critique. Bonjour Nico, bonsoir.
Salut.
Et les filles, Elisabeth et Sophie, bonjour.
Bonjour, salut. Bonsoir.
Alors les créations affluent, hein, janvier démarre bien et on part directement du côté des martyrs pour le sabotage amoureux, pour les aficionados d'Amélie Nothomb. On ira du côté du poche avec Invasion. Première partie et une deuxième invasion au Varia, à Saharupa. On ira du côté du Théâtre National pour un Shakespeare version africaine. Et on ira faire un petit tour du côté d'une reprise Manneke au Richclair, je pense.
Non, à l'Espace Mag.
À l'Espace Mag. À l'Espace Mag, pour une fois qu'il fait quelque chose. Non, ils font souvent des choses, mais bon, il est temps de mettre un peu le projecteur là-dessus de temps en temps. Aller voir ce lieu qui est très sympa. Retour alors, et quelques annonces évidemment, alors directement je me retourne vers Elisabeth qui nous parle du sabotage amoureux.
Voilà, alors ce sabotage amoureux c'est quoi ? Eh bien c'est l'adaptation scénique dans des multiples romans, des nombreux romans d'Amélie Nothomb. Et nous retrouvons grâce à ce subterfuge notre Amélie nationale à l'âge de 7 ans en Chine. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là ? Bien sûr, elle a suivi le papa diplomate et elle se retrouve ainsi dans un ghetto réservé aux enfants d'expats. Alors, en fait, tout le roman et toute la pièce aussi, parce que je n'ai pas relu le roman, mais je pense que ça colle quand même assez bien, on est dans un univers d'enfance. Alors, Christine Delmotte, qui s'est chargée de l'adaptation et de la mise en scène, reste bien dans ce bain d'enfance avec cette comédien qui forme le groupe, puisque dans ce ghetto, qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre. Mm-hmm. La guerre qui éclate.
La guerre des boutons.
Voilà, la guerre des boutons. Et en fait, plutôt la guerre des boches, puisque ça, c'est évidemment le dernier écrit, c'est qu'il faut absolument se faire un petit Allemand, là, et bien embêter, etc. Donc, on a cette espèce de, entre guillemets, cruauté enfantine. Et on a surtout Amélie qui est fidèle à elle-même, le centre du monde, jusqu'au moment où...
Elisabeth est en forme.
Donc... Catastrophe, quelqu'un traverse ce monde et Amélie se rend compte qu'elle n'est plus tout à fait le centre du monde, qu'il y en a une autre, Elena, une belle jeune demoiselle qui a comme elle 7 ans, tout à fait inaccessible. Et hop, c'est un premier traumatisme amoureux. Et nous voilà partis pour un roman... Et nous voilà partis pour un spectacle qui décline ça, qui reste bien sûr dans ce ghetto. Alors ça nous vaut, c'est vraiment, enfin moi, un spectacle que j'ai ressenti comme un spectacle de mise en scène, avec une mise en scène assez réussie de Christine Delmotte, qui trouve pas mal de subterfuges un petit peu pour nous replonger dans cette enfance, mais aussi pour nous communiquer des images. On a par exemple, il faut peut-être revenir un peu sur le titre, le sabotage amoureux. Bah bien sûr, c'est quelque chose qui coince, mais il y a aussi une image qui domine tout à fait dans cet imaginaire de Nothomb qu'on retrouve aussi sur la scène, qui est celle du cheval, le cheval qui est la liberté, etc., etc., mais qui est incarné là à la chinoise, c'est-à-dire par un vélo. Il y a des vélos, il y a des patinettes, enfin bon, donc ça
donc
bouge un petit peu.
Donc il y a une légèreté enfantine qui est mise sur scène.
Oui, bien sûr, c'est surtout la légèreté qui domine, et voilà, et on a aussi une assez belle distribution avec, si je ne m'abuse et si j'ai bien compté, 4 femmes, 3 hommes.
Et si justement, si j'ai bien compris, ils jouent les enfants ?
Ils jouent tout à fait les enfants et certains...
C'est casse-gueule.
C'est tout à fait casse-gueule, mais à la fois c'est un travail choral, on sent vraiment que c'est un travail sur le groupe. Donc on est très généralement confronté au groupe et puis à tour de rôle, ils se placent dans la position soit d'Amélie, soit d'Elena. Et voilà, mais les codes sont très installés, donc on s'y retrouve toujours.
Et justement, la langue du roman, est-ce qu'elle vient en voix off, par exemple ?
La langue du roman n'est pas du tout en voix off, puisque parfois il y a entre guillemets un des sept qui devient le narrateur. Mm-hmm. Et donc il y a un tout petit jeu, puisqu'on a à la fois le personnage qui continue à jouer et le narrateur qui se met juste à côté. Mais bon, tout ça est très très clair. Il le joue à tour de rôle. Il passe donc il n'y a pas vraiment une Amélie Nothomb qui serait par exemple Catherine de Crolly tout le temps. Non, ça change.
Et donc, il faut savoir que les romans d'Amélie Nothomb sont souvent caractérisés soit par du dialogue pur, comme elle a pu le faire, et puis parfois aussi des longs monologues avec quelques dialogues, interventions diverses dans ça. C'est un peu le style Nothomb.
Oui, mais là, l'adaptation a gardé quand même la plume, le verbe, etc., avec beaucoup de mots pour dire finalement une petite chose. Elle est là et on a même gardé le passé simple ou un temps du passé. Donc parfois, on n'a pas l'habitude de voir ça sur les scènes.
Et ton sentiment, Elisabeth ?
Alors, moi, je dois avouer que je ne suis pas une fan de Nothomb du tout.
Tu n'es pas fan d'Amélie Nothomb ?
Non, pas du tout. Mais malgré tout, j'ai survécu. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a le plaisir du spectacle ?
Oui, il y a le plaisir du spectacle. Bon, bien sûr, c'est toujours ces adaptations de romans. Ça me fait toujours un effet d'un bloc un petit peu linéaire comme ça. J'en garde une trace très, très visuelle. Et surtout, c'est des moments de groupe qui fonctionnent. Qui fonctionne bien. Je pense que l'histoire se raconte aussi, cette espèce de traumatisme comme ça initial est là aussi. Et une chouette distribution avec des petites nuances dans la manière dont on rentre dans l'enfance et tout ça. Mais donc, voilà, il y a une énergie qui circule et tout. Donc, voilà,
je pense que les fans vont
s'y retrouver.
Peut-être citer la distribution.
Oui, bien sûr. Alors, Marouane Amini, Stéphanie Blanchou, Catherine de Crolier, Ingrid Herchette, Christophe Desteck, Jessica Gazon. Et tout ça sous la houlette de Christine Delmotte.
Déjà, il y a des comédiennes comiques, hein, Gazon,
Crolier,
Herchette. Elles tiennent la route en jouant les jeunes. Moi, c'est ça qui m'étonne. Par Ingrid, ils ne sont pas habillés comme des enfants.
Non, ils ne sont pas habillés comme des enfants. Ils sont presque habillés comme toi et moi. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose qui est assez actuel. Et non, je pense que le côté enfance passe bien. Oui, non, tout à fait. Cette énergie du jeu, cette légèreté et tout ça, donc. Donc,
petite question. Quand tu disais tout à l'heure que c'était un blog linéaire qui te paraissait, c'est parce que souvent aussi les romans d'Amélie Nothomb ne sont pas découpés. Hein. C'est vraiment d'une traite comme ça. Première majuscule et dernier point, sans découpage en chapitre. C'est la même chose ?
Oui, enfin, quand je dis ça aussi, c'est parce que peut-être souvent au théâtre, on a vraiment des forces, des choses qui se dénouent et tout ça. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. On avance dans le récit un petit peu chapitre par chapitre. Donc c'est pas vraiment que l'évolution et la mise en scène est une suite de variations sur un même thème en fait. Donc c'est vraiment comme ça que ça avance et c'est pour ça que ça me donne l'impression de quelque chose de linéaire comme ça, plus par opposition à vraiment un travail en scène où une scène peut avoir une rupture totale ou des choses comme ça. Non, là on est plus dans effectivement quelque chose dans un bloc.
Donc qui plus fluide hein, que...
voilà.
Delmotte sait faire des mises en scène de toute façon.
Oui, non, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vraiment des questions de variation et les codes tout à fait bien installés. C'est la Chine, une évocation aussi de la Chine du temps des ventilateurs. C'était la Chine de Mao. On sent qu'on pointe un tout petit peu la situation géopolitique. Mais bon, ce n'est pas évidemment le terrain de prédilection d'Amélie Nothomb, donc fatalement, on s'en pointe.
C'est la cour des enfants, quoi. On est à un âge de...
Oui, bien sûr, mais enfin, comment est-ce qu'ils vivent ça ? Bon, il y a des petites allusions, on sent qu'elles n'ont pas été gommées, mais c'est pas le
gros. En tout cas, Le sabotage amoureux pour les fans d'Amélie Nothomb est à voir au Théâtre des Martyrs. Je crois que c'est des longues dates au Théâtre des Martyrs.
C'est jusqu'au 18 février que la compagnie Biloxi 48 nous propose cela.
Merci, et c'est dans la grande salle. Hein. Qui a toutes les infos en main. Alors Nico, je me retourne vers toi parce que toi, tu es parti aux poches pour l'invasion.
Et est-ce que j'ai toutes les infos pour ce spectacle ? Parce que ça m'a posé pas mal de questions, figurez-vous.
Il me semble.
Alors, Invasion, c'est une pièce de Jonas Hassen-Kemiri. Sibérie. Alors, tout ce qui vient du nord, de la Scandinavie, c'est tendance. Hein, en ce moment, mais, c'est très bien.
Oui, mais Hassan n'est pas très nordique.
Ah, il est mi-suédois, mi-tunisien, pour être exact. Mais également, c'est le discours aussi sur l'intégration de l'autre et de l'immigré qui est intéressant aussi dans ce discours et dans ces sociétés. Hein, les modèles de social-démocratie, elles sont là-bas, apparemment. Alors, invasion, et donc Olivier Coyette s'est emparé de ce texte pour nous parler de quelque chose d'assez étrange. Alors, pour bien comprendre, je vais situer la scène de départ. On assiste à une scène de Shakespeare, voilà, avec deux comédiens, c'est Riton Liebman et Nathalie Rosen qui sont sur scène, et tout d'un coup, ils se font chahuter par deux collégiens qui montent sur scène et qui s'emparent, évidemment, verbalement, d'un des personnages évoqués, le fameux corsaire Aboul Kassem. Mm-hmm. Et cet Aboul Kassem va être un peu le MacGuffin, comme dirait Hitchcock, de ce spectacle. Aboul Kassem sera un peu l'archétype de cet immigré et sera la source de malentendus, de drôleries également et de sujets divers durant ce spectacle qui est divisé en différentes scénettes parlant de l'immigration et de la multiplicité des identités culturelles un petit peu dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme exemple de scène? Il y a l'histoire d'un de ses collègues qui raconte comment il a abordé une fille dans un bar et qui apparemment est tombée en pamoison devant lui et qui a accepté de lui donner le numéro. Il dit « voilà, je lui ai dit mon nom, je m'appelais Aboul Kassem » et ça l'a tout de suite charmé. Voilà, un point de vue. Un petit peu plus tard, on retrouve une autre scène en miroir. Le point de vue de la fille qui est abordée par Aboul Kassem. Et là, c'est tout à fait différent.
Elle s'est étranglée quand on a entendu le prénom, quoi.
Ben, on sent qu'elle a vu venir le mec avec ses gros sabots. Elle dit « Oh non, pas lui, encore. » Bon, enfin bref.
Et c'est tout des scénettes qui sont jouées ou bien c'est un théâtre de récit ou c'est la parole de quelqu'un qui raconte son immigration?
Alors, pas du tout. Alors, parce qu'il n'y a vraiment pas d'incarnation unique de cet Aboul Kassem, il est abordé de manière diverse. Il n'est parfois qu'un prétexte pour amener une histoire. Et par exemple, pendant le spectacle, on retrouve plusieurs fois des scènes montrant une émission de télévision avec des experts, entre guillemets, racontant l'histoire d'un certain ou d'un Aboul Kassem qui serait un terroriste présumé. Il faut savoir que ce spectacle, c'est vraiment un spectacle inscrit dans l'après 11 septembre. Et on est dans cette psychose de construction des discours sur l'immigré et sur la construction des terroristes.
Et sur l'arabe.
Et sur... Bah oui, sur l'arabe et sur cette personne orientale qui nous vient, qui s'entraîne dans des camps. Enfin bref, voilà.
Et on a une séquence Al-Qaïda ou quoi ?
Elles sont évoquées par ces experts donc, qui sont apportés. Il y a aussi des récits beaucoup plus émouvants et drôles également. On a l'histoire de cet immigré qui raconte comment il est arrivé dans son pays pour trouver du travail en Suède et il se fait traduire. Et au fur et à mesure de l'avance de son récit, on se rend compte que la traduction est tout à fait détournée pour une construction de discours allant dans le sens de ces discours post-11 septembre de dramatisation et de théorie du complot. Hein. C'est très bien.
Est-ce que c'est une pièce qui frôle le comique ?
C'est une pièce qui se veut drôle, hein, en effet, une drôlerie cynique, bien évidemment, avec aussi des moments d'émotion, comme je vous le disais, et comme des témoignages qui sont construits.
Et on passe comment justement au niveau de la mise en scène, vu qu'il y a quand même pas mal de...
Oh, c'est tout à fait divers. Alors on est dans un plateau qui est complètement fermé comme par des murs, on dirait bétonnés, comme ça, avec des trappes et des portes qui s'ouvrent et les personnages jaillissent comme ça. Il y a des moments musicaux qui interrompent les différentes scènes. Et évidemment, Abba, qui est souvent présent, puisque ça reste un spectacle ancré en Suède. Alors ça se veut quand même universel, parce qu'on sait que ces situations ont été abordées dans nos pays aussi. Seulement, je suis quand même un petit peu resté sur ma faim. Et je ne crois pas que ce soit vraiment le spectacle qui m'ait laissé sur la faim, mais le matériel de base, le texte qui, je trouve, invite à se poser des questions, mais ne va pas assez loin. Parce que de ces discours, 11 septembre, on est quand même, on va dire, plus de 10 ans après cet événement. Et je crois qu'on a déjà eu une évolution de ce discours. C'est un spectacle qui date de 2006, qui a été écrit par l'auteur donc en 2006. Et je crois qu'il y a eu quand même une évolution dans le discours. N'empêche, ça amène des questions qui sont toujours d'actualité sur l'acceptation de l'immigré et de l'autre, et ne pas appliquer des clichés directement sur lui en le croisant.
Mais est-ce que le quotidien n'intervient pas? Parce que c'est aussi une question qu'on vit au quotidien. Là, on est dans le plan terroriste ou...
Alors, c'est vraiment... Ça, je voudrais signaler, c'est quand même dans des morceaux du spectacle. Et le reste, ce sont des scènes quotidiennes, hein, bien évidemment, qui sont décrites, comme les histoires de ces collégiens qui s'emparent du nom ou la scène du bar, évidemment. Il y a plusieurs choses.
Donc, c'est un texte écrit au départ de sa propre expérience,
origine. Mais pas de chaud froid. De choses précises. Alors, pour renforcer le propos, et je trouve qu'il y a un petit décalage entre la drôlerie cynique et ce que nous amène Olivier Coyette par la projection de vidéos d'immigrés chassés vraiment, puisque cette thématique d'invasion, hein, c'est ce problème, cette peur de l'invasion, et aussi par un diaporama d'immigrés qui traversent la Méditerranée ou le Rio Grande aussi pour pouvoir atteindre leur Eldorado. Alors voilà, c'est un spectacle en demi-teinte que je trouverai, et on verra alors comment le Varia l'abordera dans début février. Donc,
avec une autre production.
Une autre distribution. Alors ici, Olivier Coyette est lui-même sur scène avec Riton Liebmann, Fabien Magri, Nathalie Rosanne, et c'est un spectacle Invasion, donc à voir jusqu'au 4 février au Théâtre de Poche.
Si tu pouvais nous mettre un peu de musique pour faire une pause.
Et que diriez-vous de country? Hey girls.
Ça, c'est l'invasion.
La conspiration.
Admirez la transition. On va retrouver tout de suite les fines gâchettes du théâtre bruxellois dans la conspiration des planches.
Eh bien, moi, je répondrai à Nicolas. Sauf qui peut, je vous emmène en Afrique.
Oh.
La country après l'invasion, ça se déguste. Alors, au Théâtre National, c'est une création événement. Isabelle Pousseur présentait et présente encore Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare avec une distribution essentiellement africaine. Il faut savoir que c'est issu d'un projet, donc elle est partie faire un atelier de stage, un workshop, comme on dit, à Ouagadougou, au Bénin. Non, au Burkina Faso.
Mais oui.
Au Burkina Faso. Et là, ils ont travaillé la matière Shakespeare dans Le songe d'une nuit d'été. Et de là est venu, dans le prolongation, quelques années après, c'est pas direct, hein, c'est ça qui est étrange, c'est des années après, les artistes n'oublient pas une œuvre ou un moment qui les a touchés. Quand on lit le dossier, on sent vraiment que ça a touché Isabelle Pousseur, qui n'est pas spécialement une habituée de l'Afrique. Et donc, il y a une chaleur et surtout une légèreté et une liberté de jeu, d'inventivité, qu'elle dit qui l'a vraiment touchée. Et c'est vraiment ce qui se ressent dans cette pièce de Shakespeare. Moi, je le dis d'emblée, c'est pas vraiment pas ma préférée de Shakespeare. J'irai quand même la voir une, deux, trois fois. On n'a pas des songes pour comparer, mais en tout cas, j'ai trouvé la pièce un peu creuse. C'est une féerie dans une forêt. Il y a deux couples qui s'aiment, ça va être en quiproquo. Dans le bois, on a une dispute entre le roi des fées et la reine des fées qui se disputent un môme et qui vont alors se jouer. Le roi va jouer des vilains tours. Et on a aussi des gens qui font du théâtre amateur et qui doivent présenter une pièce lors d'un mariage. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce quiproquo, hein, qui est tout le long de la pièce, le roi des fées, pour un peu se venger de sa reine, joue sur des potions qui masquent qui mis sur le visage. Et quand on réouvre les yeux, on tombe amoureux du premier venu. Donc la reine, elle va se farcir un gars qui a une tête d'âne, elle va tomber amoureux directement de lui. Les couples vont à un moment donné s'en mêler dans des amours fous, complètement hallucinés. Et à la fin, on se demandera tous finalement si c'est pas un songe, parce que tout finit bien, évidemment, dans cette pièce. Donc voilà, moi je l'ai trouvé un peu, voilà, c'est une fantasmagorie. On a l'impression que ce sont les pièces de fin d'année, hein, où on doit mettre un peu de magie.
Oui, mais c'est aussi, en général, un vrai défi de mise en scène, parce qu'il y a toujours deux niveaux aussi. Il y a le niveau... Le théâtre dans le théâtre, et puis il y a le côté bien terrien, et puis le côté plus aérien. Donc, est-ce qu'on met en scène avec deux niveaux des... Moi, j'ai déjà vu des mises en scène où il y avait vraiment tout qui se passait en haut, sur les cintres, etc., pour qu'on voit bien ces...
Mais justement, enfin,
c'est quand même un défi de monter ça, quoi.
C'est ceux qui ont le songe, qui ont vu plusieurs reproductions. Moi, j'en ai vu avec des gens qui ont vu le songe, qui m'ont dit, voilà, de la pièce, finalement, on ne retient rien, mais il y a une fraîcheur de jeu à l'africaine. Ouais. Alors, c'est tout, c'est comment amener cette forêt et toute la magie. Ouais. Et Isabelle Pousseur l'amène très bien. C'est avec des petits arbres qui, à un moment donné, vont débarquer sur scène par les comédiens et on rentre directement dans cette forêt par un jeu d'éclairage. Donc, quelque chose de très simpliste. Et on est vraiment dans, entre le réel et la fantasmagorie, la frontière est ténue. Donc, c'est vraiment à la fin, on se dira, ah bah oui, ça aurait pu être un songe ou pas un songe. Chacun y met ce qu'il veut. Moi, j'ai été juste frustrée par le propos que j'ai pas vraiment senti. Bon, j'étais tellement accaparée par la jubilation des comédiens. Ils viennent, en plus, ils sont même pas caricaturés dans leur folklore ou dans leur tchatch. C'est vraiment dans un jeu très naturel. Et il y a ce mélange de leur culture. C'est vraiment, voilà, on a pris des comédiens africains professionnels. Vous jouez avec ce que vous êtes, avec votre gestuelle, avec votre démarche. Et ça donne une fraîcheur
supplémentaire.
Est-ce que c'est des comédiens qu'on a déjà vus? Parce que
c'est des comédiens africains d'ici. Ici, elle a fait une audition. Bon, faut savoir que les comédiens africains sont pas très demandés dans le théâtre francophone. Oui, mais c'est toujours dans les pièces africaines. On donne rarement un Hamlet à un Africain.
Non, on a vu le Dandar.
Un Arabe. Mais je veux dire, c'est des pièces vraiment exceptionnelles où les gens osent. On est encore dans cette image en se disant bon, Hamlet doit être comme ça, Ophélie doit être. Donc, c'est pas des comédiens qu'on connaît. Moi, dans la production, je n'en ai pas vu, mais ils sont à 13, donc ça donne. Et alors, ce qui est drôle, c'est que elle mélange évidemment l'Occident, je veux dire, et l'Africain. Par exemple, il y a à un moment donné une chanson qui est Vous les femmes de Julio Iglesias, il y a un morceau de djembé, tout ça sans caricature, ça se marie très bien, parce que c'est ce qu'ils ont à un moment donné. La fée, elle est accompagnée de ses suivants, ils sont très drôles, ils ont des espèces de tutus en paille africains avec des perruques blondes, bleues et tout, c'est à mourir de rire. Le théâtre dans le théâtre est aussi très drôle, ça c'est un procédé tellement efficace, le théâtre dans le théâtre, et tous les comédiens, moi j'ai trouvé jouer très très bien. Il m'a fallu 5 minutes pour essayer de rentrer dans la langue, parce que la prononciation, quand on n'a pas l'habitude, on a un peu de mal, mais il y a une tchatche et une jolie, quelque chose de très jubilatoire. Il faut dire que le spectacle est long quand même, c'est de 8h à 11h avec entracte, donc n'allez pas spécialement pour la pièce, pour le contenu du songe, mais juste pour le plaisir du spectacle et de voir quelque chose de neuf, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a une production africaine qui déboule chez nous en dehors du Kuntz et de tout ça. Donc moi je le recommande parce que c'est très chaleureux et ça fait du bien de temps en temps. Est-ce que j'ai les dates, Nicolas? Est-ce que tu as les dates?
Moi, je les ai.
Merci, Nico.
C'est jusqu'au 28 janvier prochain. Et c'est donc dans le cadre aussi de tournée générale, le fameux festival et programme d'échange du National. Et www.théâtrenational.be pour les réservations.
Voilà. Et bien sûr, c'est la grande salle du Théâtre National. De la grande salle, on va sûrement dans un autre endroit. C'est l'espace MAG. Elisabeth, tu as vu Mannequin de Pierre
Weinkro. Oui, alors on parlait tantôt d'autobiographie avec le Noton, et bien on y retourne aussi avec Mannequin, qui en fait est un récit autobiographique brut de décoffrage d'un comédien qui a défrayé la chronique l'année passée, ou en tout cas lors de la création de ce Mannequin. Il s'agit de Pierre Webern, je ne suis toujours pas habituée à son nom, Webern, qui a un mélange de souches bruxelloises et liégeoises, et donc il nous joue tout ça avec accent de là-bas, et la particularité aussi de se glisser dans différents personnages, comme s'il avait fait ça toute sa vie, et donc il incarne notamment sa mère et toute la petite famille. Voilà, c'est assez délirant.
C'est une pièce d'aveu aussi.
C'est une pièce d'aveu aussi, effectivement. Il y a un coming out aussi. Mais c'est... voilà, donc c'est quand même quelque chose qui a suscité pas mal de délire aussi. Moi, je l'ai vu le soir de la première et effectivement, c'est juste si les gens n'étaient pas debout dans la salle.
C'est les phénomènes ch'tis, les barons, dès que ça nous parle avec nous.
Oui, mais c'est aussi un comédien qui est très fort dans la performance. Et donc, c'est vraiment, je ne sais pas si ça se dit, un performiste ou un performeur ou quelqu'un qui... Il y va à l'énergie l'énergie et tout ça. Alors, je pense qu'il faut surtout y aller si vous voulez voir, à réserver au plus vite, parce que ça fait deux petites dates, donc le 20 et le 21 janvier à l'espace MAG. Et tant qu'à faire, je vous donne vite le numéro de téléphone, 02 274 05 10.
Que de sorties de l'espace MAG. Sophie, toi, tu es venue nous parler d'un projet à la Monnaie.
C'est ça. Donc, en fait, du 18 au 22 janvier, il y a une collaboration entre la Monnaie et PARTS, qui est l'école de Anne-Thérèse de Kersmacher, qui forme des danseurs professionnels de tous les pays. Hein. Ils viennent étudier ici à Bruxelles. Et voilà, ils se sont lancés dans un projet commun pour réussir à faire des créations dans des conditions professionnelles. Et donc, ils vont venir présenter tout ça à la Monnaie. Donc aux ateliers de la Monnaie plus exactement. Et c'est une collaboration aussi avec les solistes de l'Orchestre symphonique de la Monnaie et les jeunes chanteurs de la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Voilà, donc la première édition a eu lieu il y a 2 ans. Cette année, c'est plutôt le répertoire fin 19e et début 20e siècle qui est abordé. Et voilà, il y a de jeunes
chapeau,
chorégraphes.
Chapeau pour les jeunes danseurs de Anne-Thérèse de l'école,
chance,
avoir
ça.
La Monnaie.
Et ils ont notamment, une partie des danseurs a notamment travaillé avec les jeunes chorégraphes Étienne Guillotot et Claire Croisé, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir ces derniers temps, notamment en Brigitine. Voilà, donc jusqu'à ce dimanche, ce sont des programmes qui durent 2 heures avec entracte. Mm-hmm. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir et je vous invite à aller voir sur la monnaie.be toutes les infos.
Donc la danse contemporaine à la Monnaie, et moi je vous emmène voir un performeur un peu allumé, Ivo Dimchev, Focus Ivo Dimchev, jeudi, vendredi, samedi, 3 spectacles différents. Ivo Dimchev est un performeur bulgare installé à Bruxelles. Il fait des représentations chez lui pour un public d'initiés. Alors lui, vraiment, c'est le corps torturé, le corps mi-homme, mi-femme, il joue dans tous ses tripes. Son tube, on va dire, c'est Lily Handel, c'est un spectacle, je crois, de 2004 ou 2006, qui tourne, qui commence jeudi, et Lily Handel, il joue une espèce de diva déchue, paumée, qui a besoin de fric, et apparemment, dans le spectacle, il vendrait son sang pour un peu d'argent, donc il y a une interactivité un peu trouble, comme ça, avec le public. Il fait aussi Paris, sur l'artiste humilié, et Somme ou Fave, sur le voyeurisme, donc on est vraiment dans des frontières troubles, la vraie performance sur le corps, où il se met en danger, c'est un chanteur, il s'affiche comme un théâtre physique. Soyez avertis, allez voir son site Ivo Dimchev, googlez ça, vous allez voir un peu les images. C'est pas bon, ça peut choquer certaines personnes. C'est au Tanner. Autre annonce, rien à voir sur l'immigration italienne. Allez voir Hervé Guérissi, un excellent comédien qui fait un seul en scène et qui retrace toute l'immigration italienne avec ses accents, avec ses histoires, avec ses déboires. Immigration italienne en Belgique, c'est Nicolas Cincali.
Cincali, exactement.
Cincali, du 19 au 21 à la Vénerie. Que de sorties théâtrales pour vous, ça va être dur de trancher.
Allez, belle semaine.
Mm-hmm.
Et à la semaine prochaine pour d'autres planches. N'oubliez pas le podcast de cette émission, c'est sur demandezleprogramme.be et dans le centre de ressources de la Bellonne. Très belle semaine à vous.
Constelación.